Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, les nationalistes peuvent-ils travailler ensemble ? Annoncez le déluge. Si finalement il ne se produit qu'un très gros orage, vous aurez l'impression d'avoir échappé au pire. C'est un peu ce que semblent se dire aujourd'hui ceux qui craignaient de voir les nationalistes être les grands vainqueurs des élections européennes. Certes, ils progressent, mais pas autant qu'annoncé. La vague brune, pour reprendre une expression lue dans la presse du jour, ne s'est pas produite. Pour autant, la progression de cette famille hétéroclite constitue bien un des enseignements du scrutin. En Hongrie, en Pologne, au Royaume-Uni, en Italie, en France, ce sont des formations de la droite radicale et souverainiste qui arrivent en tête. Alors ça ne fait pas une majorité au Parlement, mais cette poussée, et celle bien sûr des écologistes, rebat les cartes à Bruxelles et Strasbourg. Les conservateurs et les sociodémocrates n'ont plus ensemble la majorité absolue. Pour autant, les nationalistes sont-ils en mesure de peser autrement qu'arithmétiquement ? Il ne suffit pas d'ajouter les voix des uns à celles des autres. Encore faut-il que ces partis réussissent à s'entendre sur quelques sujets communs pour bâtir un groupe pérenne et puissant. Alors les nationalistes peuvent-ils travailler ensemble ? C'est la question du soir en compagnie de deux invités. Bertrand Badi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, professeur émérite des universités, spécialiste des relations internationales. Parmi vos derniers ouvrages, je citerai votre État du monde 2019 que vous publiez chaque année avec Dominique Vidal, intitulé cette année « Le retour des populismes à la découverte ». Et pour discuter avec vous, Jean-Yves Camus, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue également, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes chercheur rattaché à l'IRIS et spécialiste des nationalismes et des extrémismes en Europe. Encore que on verra peut-être dans un instant si ces qualificatifs, si ces termes vous conviennent pour essayer de qualifier ce paysage assez hétéroclite. J'aimerais d'abord, moi, savoir ce que vous retenez d'abord du scrutin d'hier par rapport... Alors, appelons-les quand même toujours comme ça, ces nationalistes et à leur score global. Est-ce que le fait, ce que vous retenez d'abord, Jean-Yves Camus, c'est le fait que ce score soit en hausse par rapport à 2014, ou bien c'est plutôt qu'il soit moins important que ce qui était annoncé ?
Non, ce que je retiens, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que si on considérait plutôt à la veille du vote qu'il y allait y avoir un tsunami, eh bien on se rassure, parce que cette progression des populistes eurosceptiques xénophobes, c'est comme ça que je les qualifierais, est somme toute moindre que celle que les plus pessimistes attendaient. Et puis naturellement, si on regarde la pure arithmétique, on voit un bilan mitigé, avec des scores extrêmement importants dans trois pays fondamentaux pour l'Europe, que sont la France, le Royaume-Uni et l'Italie, mais aussi des scores qui sont parfois assez mauvais, assez décevants. Le score de Monsieur Wilders aux Pays-Bas, celui du Parti du Peuple danois, qui divise par deux son score de 2014, et quelques autres progressions moins importantes que prévues. Le FPE, par exemple, en Autriche, qui subit nettement le contre-coup du fameux Ibiza-Gate. Mais moi, ce que je retiens, c'est pas ça, finalement. C'est d'abord la fin du duopole qui gérait ce Parlement depuis plusieurs décennies et qui est constitué par les conservateurs du groupe PPE et les sociaux-démocrates. Et puis c'est aussi quand même quelque chose qui me paraît extrêmement préoccupant et qui est l'affaiblissement de la droite conservatrice traditionnelle. Parce que tout de même, Theresa May, obligée de démissionner, la chancelière Merkel en difficulté au sein de son propre parti. Ce midi, le chancelier autrichien Sebastian Kurz, le prodige de la politique autrichienne, mis en minorité au sein du Parlement. Le Parti populaire espagnol, qui n'a pour se consoler que la prise de la mairie de Madrid, cela peut faire une cloison à droite, j'allais dire, par rapport aux populistes eurosceptiques qui s'abat. C'est très dangereux de ne pas avoir dans une démocratie de droite conservatrice structurée et forte.
Et alors on va voir justement si la fin de ce duopole peut permettre à cette droite, comme vous le dites, eurosceptique et xénophobe, de se glisser dans certains interstices, peut-être de peser davantage qu'elle n'a pu le faire lors des précédentes mandatures. Pour vous, Bertrand Badi, l'enseignement justement par rapport à ces formations, c'est quoi ? C'est la progression ou c'est la moindre progression par rapport à ce qu'on attendait, enfin à ce qu'on attendez, ce qu'on craignait, selon le camp dans lequel on va se situer, disons.
Oui, oui, je rejoins ce que vous avez dit et ce qu'a dit Jean-Yves Camus. Je crois que c'est exactement ce qu'il faut tirer comme leçon de ce qui s'est passé hier. J'ajouterai peut-être un élément, c'est que malgré tout, malgré des scores qui n'ont pas été aussi élevés qu'on pouvait le croire, le national-populisme de droite s'en est mieux tiré que le national-populisme de gauche. C'est-à-dire l'effondrement de la France insoumise, qui a quand même vu son score divisé par 3, montre qu'il n'y a pas un étiage fort pour un souverainisme et un euroscepticisme de gauche. Alors, il y a une très forte dispersion, bien sûr, des voix de gauche dans le cas français, mais ce que l'on constate, c'est que les partis de gauche qui, en France, s'en tirent le mieux sont des partis pro-européens. Les écologistes, qui en font même leur marque essentielle, un parti socialiste qui a un score effrayant par rapport à l'histoire même récente, mais qui s'en tire mieux que ce qui aurait pu se produire, c'est-à-dire d'être en dessous du seuil de 5%, et quand même, il faut méditer ce score de la France insoumise divisé par 3 depuis l'élection présidentielle. Alors, je sais bien qu'il faut faire attention, pas comparer l'élection présidentielle, l'élection européenne, tout ça, c'est très très différent. Mais voilà un parti qui voulait miser sur le mouvement des Gilets jaunes, qui voulait affirmer, sinon son hostilité à l'Europe, en tous les cas son hostilité à l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, et voilà surtout un discours souverainiste de gauche qui n'arrive pas à éclore. Il y a un mondialisme de droite qui est au pouvoir en France actuellement, un souverainisme de droite qui fait quand même une promenade de santé électorale, un souverainisme de gauche qui s'étiole et un mondialisme de gauche qui se cherche.
Est-ce que le score réalisé par la liste du Rassemblement National n'en est pas d'autant plus remarquable, Bertrand Badi, c'est-à-dire de voir que le parti de Marine Le Pen, malgré les déboires qui ont été ceux de l'entre-deux-tours de la présidentielle et du second tour de la présidentielle de 2017, réussit quand même à rester le premier parti de France dans une élection européenne, puisque c'était déjà le cas en 2014.
Il faut pas reprendre cette formule sans la critiquer. Il n'est pas le premier parti de France.
D'abord, il est le premier parti européen en 2019 comme en 2014.
Il s'agit des élections européennes, c'est quand même un cas très particulier. Quand vous dites premier parti de France, ça veut dire par rapport au système politique français. Et là, on est en décalage par rapport à, je dirais, le renouvellement du personnel politique français, du personnel de gouvernement. Et deuxièmement, il faut quand même mettre le doigt, peut-être on entre ici dans le fond de notre débat, sur ce qu'est un parti de protestation. C'est-à-dire, dans un contexte de défiance à l'égard des institutions, de critique forte à l'égard du gouvernement, d'absence d'un vrai parti de gouvernement. Faut pas l'oublier aussi, tout ça ce sont des composantes importantes qui expliquent que la cristallisation protestataire est forte. Et ce qui distingue ce néo-nationalisme souverainiste, c'est à travers ces deux termes, davantage un cri de protestation qu'un cri de gouvernement. C'est-à-dire protestation contre la mondialisation qui est présentée comme dangereuse et comme faisant peur, et protestation aussi contre l'ordre gouvernemental tel qu'il est, mais sans programme de gouvernement. Sans programme de gouvernement.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Jean-Yves Camus? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une tendance peut-être à minimiser les mérites d'une formation comme le Rassemblement National, qui, je le rappelle, je ne dis plus premier parti de France, mais en tout cas qui réussit à 5 ans d'intervalle et après ce semi-traumatisme quand même qu'a été la présidentielle de 2017 à se maintenir en première position pour les européennes.
Moi, j'ai jamais véritablement compris où était le traumatisme dans le score de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle.
On a beaucoup dit qu'en tout cas, le débat de l'entre-deux-tours signait quasiment sa mort politique.
Mais moi, j'y ai jamais cru. J'ai jamais cru, de même que, je le dis solennellement, quitte peut-être à être démenti dans quelques mois, je ne crois pas à la mort du FPE parce que M. Strach s'est fait prendre la main dans le pot de confiture à Ibiza, en train de proposer des marchés publics à la fille d'un oligarque russe. Parce qu'il y a un socle électoral.
On a d'ailleurs,
qui s'est
pardonnez-moi,
construit.
Juste petite parenthèse, d'ailleurs, on a appris qu'il obtenait, M. Strach, un poste d'eurodéputé en vertu d'un système, alors assez particulier en Autriche, où on peut voter quand on est sur une liste, parce puisque lui, il était a priori en position non éligible, mais suffisamment de gens ont voté directement pour son nom,
oui,
et ça lui permet voilà, d'aller au Parlement européen. Bref, je ferme la parenthèse.
Eh bien, donc, pour reprendre, moi, je n'ai pas cru à cet effondrement. J'ai cru que peut-être Marine Le Pen, la personne Marine Le Pen, se trouverait mise en difficulté dans sa formation parce qu'elle avait réalisé ce qui était de toute évidence une contre-performance ou un acte manqué. Mais le socle électoral de ce qui était à l'époque encore le Front National, il est là et il se consolide. Et on le voit d'élection en élection et de mode d'élection en mode d'élection. C'est un parti qui a la capacité aujourd'hui à fidéliser ses électeurs. Ce sont d'ailleurs les électeurs qui, le premier, cristallisent leur choix. Ce sont les gens qui sont le plus tôt dans la campagne sûrs de voter pour le RN ou son candidat. Et ce sont des gens qui, tout en étant dans la protestation, et sans que cette formation ait effectivement de programme de gouvernement dont nous pensons qu'il puisse être mis en pratique, qui ont tout de même un certain nombre de fondamentaux qui leur servent de boussole. Ils sont réellement persuadés que l'immigration est la cause de tous les maux de la France. Ils sont réellement persuadés qu'il faut faire une distinction juridique entre les Françaises et les étrangers. Ils sont réellement persuadés que la société multiculturelle n'est pas viable. Donc il y a un plus petit dénominateur commun qui va quand même au-delà de la protestation. Ce sont les gens qui ont quelques idées simples, mais après tout, est-ce que les électeurs des autres formations politiques ont eux-mêmes une connaissance parfaite du programme de leur formation? Est-ce qu'ils vont chercher dans le détail? Est-ce qu'ils votent pas sur quelques idées forces? Moi, je pense que si.
Vous avez parlé, Bertrand Badie, à propos du Rassemblement National, de néo-nationalisme. C'est quoi le néo-nationalisme par rapport au nationalisme, si ce n'est bien sûr qu'il est nouveau, mais peut-être qu'il a des caractéristiques qui le différencient justement de l'ancien.
Alors voilà, comme souvent en politique, il faut faire très attention aux mots que l'on emploie. Et le mot nationaliste est un mot qui a été galvaudé d'une part, et qui surtout renvoie à une histoire longue qui n'a pas du tout rendu le phénomène immuable, c'est-à-dire qui a profondément changé dans le temps. À l'origine du nationalisme, il faut jamais l'oublier, il y a un acte d'émancipation. Le nationalisme tel qu'il s'est exprimé à partir de la Révolution française et pendant tout le XIXe siècle est devenu une triple émancipation. Émancipation par rapport à l'absolutisme, c'est le premier nationalisme, c'est-à-dire la souveraineté nationale. La souveraineté est dans la nation et non dans le chef d'État, dans le roi. Nationalisme par rapport aux tutelles impériales, alors ça, nous ne l'avons pas connu dans tous les cas de manière si directe, mais en Europe centrale et en Europe orientale, ça a joué un rôle énorme. C'était le fameux mouvement des nationalités, où il s'agissait de s'émanciper par rapport à tous ces empires, l'Empire russe, l'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois, ou émancipation par rapport à la puissance coloniale. Là, on comprend qu'il s'agit davantage des pays du Sud qui ont vécu et qui vivent encore et qui, pour certains, n'ont pas abouti dans leur volonté nationaliste.
On n'est plus du tout là-dedans aujourd'hui.
On n'est plus du tout là-dedans. On est, au contraire, dans une sorte de nationalisme d'enfermement, de repli ou de privation. C'est-à-dire que nationalisme ne veut pas dire s'émanciper, mais veut dire se protéger. Se protéger de l'autre, de l'altérité. Et l'altérité, dans un temps de mondialisation, c'est devenu un sujet central. C'est-à-dire le grand problème, le premier problème en relations internationales, c'est comment je me définis par rapport à l'autre. Soit j'accepte l'échange, la communication, la mobilité, j'entre dans un monde de mobilité, d'interdépendance et de multiculturalité, soit au contraire, je construis des murs. Et là, nationalisme a un sens totalement différent. Il n'y a plus du tout d'émancipation. Au contraire, on refuse à l'autre l'émancipation à laquelle il pourrait aspirer en s'intégrant à la société française et en intégrant aussi son propre capital culturel à la société française. C'est-à-dire, c'est un nationalisme de privation de droits, d'enfermement, de rejet. C'est le nationalisme des murs. Et c'est pour ça que je ne dirais jamais nationaliste, je dirais néo-nationaliste, parce que tant ce que porte le Front National ou le Rassemblement National en France, que M. Orban en Hongrie ou que M. Trump aux États-Unis, c'est exactement la même chose, mais on peut continuer à élargir à la Turquie d'Erdogan, à la Russie de Poutine, où on retrouve cette même composante face à la mondialisation, c'est-à-dire de facto l'abolition de la distance, faut pas l'oublier. La base de la mondialisation, c'est l'abolition de la distance et finalement la transgression des frontières. Je choisis une politique de repli.
Et ça pèse quoi ce néo-nationalisme aujourd'hui ? Enfin, dans le nouveau Parlement européen qui va être investi d'ici quelques jours, Jean-Yves Camus.
Alors avant de répondre à la question, moi je rebondirai sur cette question néo-nationalisme ou nationalisme au sujet des pays d'Europe centrale et orientale, où il y a à la fois une continuation du nationalisme d'émancipation et simultanément un nationalisme de fermeture. Pourquoi ? Parce que si l'on consulte la chronologie, on s'aperçoit que dans les pays d'Europe centrale et orientale, nous sommes très exactement à 100 ans de la première affirmation sous la forme d'un État souverain du nationalisme d'émancipation. Bien sûr, il y avait eu la révolution de 1848 qui avait vu les masses, non seulement hongroises, mais d'autres pays d'Europe centrale sous la tutelle des Habsbourg, se soulever pour s'en émanciper. Mais enfin, tout ça ne débouche sur un État qu'après la Première Guerre mondiale. Donc, les Roumains, par exemple, commémoraient l'année dernière le centenaire de Romania Mare, la Grande Roumanie. Et les Hongrois vont, non pas commémorer, mais pleurer en 2020, le centenaire, c'est pas vieux 100 ans, du traité de Trianon qui a dépecé leur pays et l'a amputé des deux tiers, de même que les Baltes n'ont, au fond, que 102 ans et quelque chose d'existence en tant qu'État. Est survenue l'occupation nazie, puis la domination russe à travers le communisme, et ces gens ont cru de bonne foi que l'adhésion à l'Union européenne allait leur permettre de continuer à s'affirmer en tant qu'État-nation jeune qui n'avait pas fini son développement d'État-nation. Et patatras, d'abord ils s'aperçoivent que l'Union européenne leur impose quelque chose qui vient au-dessus de leurs normes juridiques, et ensuite survient effectivement ce qu'on a appelé la crise des migrants, c'est-à-dire non pas finalement une crise, mais tout simplement la concrétisation matérielle du fait que ce continent est devenu multiculturel, et ça, ils n'y étaient de toute évidence pas prêts. Pour eux, l'Europe, c'était pas ça. C'était terminer leur processus d'émancipation.
Et est-ce que ça veut dire du coup, alors Jean-Yves Camus, mais je vais reformuler ma question, que cette différence dans la chronologie de ces nationalismes fait que ça vous paraît compliqué d'additionner, de les additionner pour essayer d'estimer leur poids aujourd'hui en Europe ?
Alors ce qui rend difficile le fait de les additionner, c'est qu'ils ont des matrices idéologiques et des divergences qui existent incontestablement et qui vont des fois jusqu'à l'absurde. C'est-à-dire que comme j'ai entendu Marine Le Pen conseiller aux électeurs belges, donc également aux Belges francophones, de voter pour le Vlaams Belang, qui est un parti qui, il y a encore une dizaine d'années, proposait la constitution des grands Pays-Bas, y compris la minuscule partie du département du Nord où on continue à parler flamand. Honnêtement, il y a de quoi se taper la tête contre les murs, parce que c'est pas, le Vlaams Belang n'est pas un pays qui offre aux francophones qui vivent en Flandre toutes les facilités linguistiques, vous voyez. Donc voilà, il y a des divergences, il y a effectivement des ultralibéraux en Europe de l'Est, il y a des mouvements d'extrême droite libertariens, et puis il y a des gens qui sont plus étatistes, il y a des gens qui sont des néo-fascistes avérés, les Grecs de l'Aube Dorée qui ont envoyé de nouveau hier un député au Parlement, et puis d'autres qui ne travailleront jamais ni avec eux ni avec les Slovaques de M. Kotleba parce qu'ils sont dans un processus de normalisation. Voir comme M. Orban qu'il pense de bonne foi, là encore, que c'est eux les vrais démocrates chrétiens et que c'est le PPE de M. Weber et l'ensemble des composantes du PPE, autres qu'eux, qui ont au fond abandonné les valeurs traditionnelles, les racines chrétiennes de l'Europe, etc., etc. Mais la logique, ça il faut insister dessus, la logique du fonctionnement parlementaire dans tous les parlements du monde, nationaux ou non, c'est le regroupement. Il vaut mieux s'allier avec des gens avec qui vous ne partagez pas 100% de l'agenda, mais être visible dans un groupe parlementaire, que de siéger sur son aventin au lieu de au nom de la pureté idéologique. Donc ils vont se rassembler.
Alors justement, c'est la question que j'allais aussi vous poser, Bertrand Badie. Est-ce que vous pensez que cette logique-là va prévaloir sur les divisions, parce que il y aura peut-être une forme de pragmatisme, de se dire que, en plus avec la recomposition très importante désormais au sein du Parlement européen, on le rappelle donc, et le Parti populaire européen et les sociaux-démocrates qui ne sont plus en mesure à eux seuls d'avoir la majorité absolue, c'est une occasion, peut-être en or, que d'avoir un groupe nationaliste, néo-nationaliste, pardon Bertrand Badie, qui est un pouvoir, en tout cas, qui ait la possibilité de peser de manière forte sur la marche de l'Union européenne.
Alors c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent, et je rejoins tout à fait ce que disait Jean-Yves Camus, il y a de l'ambiguïté, notamment dans ces pays d'Europe centrale ou orientale, qui n'ont pas le sentiment qu'ils ont parachevé leur émancipation nationale dans le sens que je définissais tout à l'heure. Et c'est vrai notamment qu'il y a une orientation anti-russe qui explique la raison pour laquelle le PiS, notamment, mais aussi le Fidesz, bien que ce soit plus compliqué que le Fidesz, et une sorte d'aversion pour tout ce qui serait rapprochement avec la Russie, ou au contraire, les mouvements néo-nationalistes de l'Europe occidentale semblent se complaire aujourd'hui. Alors évidemment...
Je rappelle juste le PiS, c'est en Pologne,
PiS le en Fidesz, Pologne, c'est en Hongrie. Et le Fidesz en Hongrie. Alors évidemment, tout ça rend la chose confuse. Il faut ajouter que nous sommes à cheval sur trois temps. Il y a ce temps de l'émancipation impériale qui n'est pas totalement terminé, ou en tous les cas qui apparaît encore d'actualité. Il y a le temps, et qu'il ne faut pas négliger, de définition par rapport à une mondialisation qui fait peur, et le dénominateur commun de tous ces néo-nationalismes, c'est de dénoncer la mondialisation, et en dénonçant la mondialisation poussé vers une sorte de régression identitariste, c'est-à-dire que lorsque on a peur de l'autre, eh bien évidemment on valorise sa propre identité, et ceci renforcé par un troisième facteur dont on n'a pas beaucoup parlé encore, et qui est là plutôt dans la veine populiste, qui est une sorte de défiance à l'égard des institutions, à tous les niveaux, les institutions nationales, les institutions européennes et les institutions mondiales.
Alors, même si aujourd'hui il n'y a plus de projet de quitter ces institutions, ni l'euro, ni l'euro.
Il y a un discours, et derrière le discours, il y a même un comportement que les sondages ont pu vérifier, de désaffection à l'égard des institutions à tous les niveaux, et même en France. En France, l'institution présidentielle, c'est 34% de légitimité. Les partis politiques, c'est 10% de légitimité. Rendez-vous compte ce que cela implique. Alors, quand vous êtes dans une situation de peur face à la mondialisation et de défiance à l'égard des institutions, évidemment, le ferment identitaire joue à fond son rôle, d'où cette nature identitariste qui ramène tous ces partis vers les racines chrétiennes, la civilisation européenne, peut-être même la civilisation blanche et tout un tas de régressions infinies. Alors du coup, on est face à quelque chose de tout à fait contradictoire. Un, effectivement, tous ces mouvements sont néo-nationalistes, donc se trouvent des affinités, se trouvent des points communs et une volonté de travailler ensemble. Mais deux, ils quand même obéissent à une double dynamique identitariste et néo-nationaliste qui fait que moi c'est moi et toi c'est toi, et donc on ne se confonde pas. Et puis il y a un troisième élément qu'il ne faut pas négliger, qui est ce que je disais tout à l'heure, la texture protestataire de tous ces mouvements. Et à partir du moment où on est protestataire, ce que l'on regarde, c'est pas tellement ce qu'on veut construire ensemble, c'est les mêmes griefs qu'on porte au reste. Et c'est la raison pour laquelle je doute que ces partis soient des partis de gouvernement. Quand ils accèdent au gouvernement, ils n'ont pas de programme à réaliser, et ils ne s'accomplissent et ne se retrouvent entre eux que dans la protestation. Et là, la protestation, ça peut créer des unions faciles. Bon, le problème, c'est qu'elles ne sont jamais durables, et surtout quand on passe à l'acte, c'est-à-dire quand on passe à l'acte de gouvernement.
Jean-Yves Camus.
Sur la question du projet, il est exact que l'immense majorité des partis nationaux populistes, pour faire court, n'ont plus à l'ordre du jour un référendum à l'issue duquel leur pays quitterait l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont devant eux, grandeur nature, l'exemple britannique qui montre que c'est quand même bigrement compliqué et qu'au bout de 2 ans et demi, l'affaire est toujours pas faite. Donc ils ont compris, et Marine Le Pen a compris dès la présidentielle de 2017, que c'était anxiogène pour ses propres électeurs, notamment pour ceux qui n'ont connu que l'euro et l'Union européenne. Vous savez, si vous parlez à un jeune aujourd'hui, enfin même à quelqu'un de 30 ans du retour au franc, très honnêtement, ça lui dit pas grand-chose. Mais quand on lit les programmes de tous ces partis, qu'est-ce qu'on voit ? On voit le retour à l'Europe des nations, le retour à l'Europe des coopérations librement consenties, à des coopérations de projets. Ça a un nom. Dans l'histoire, ça s'est appelé le marché commun. Alors, on a fait de grandes choses avec le marché commun, mais ça n'est pas la pente qu'a pris l'Union européenne, qui est celle, effectivement, de mettre au-dessus du droit national un droit communautaire et d'aller toujours vers davantage d'intégration. Donc, au final, quand ces partis nous disent « Europe des nations », coopération de projet, ils reviennent, ils veulent bel et bien revenir sur l'essence même du projet européen. Autrement dit, même s'ils s'en défendent, leur position est une position de rupture. Elle passera peut-être pas, elle passera même pas dans l'immédiat par un référendum de sortie, mais d'une manière ou d'une autre, s'ils étaient au pouvoir, leur volonté serait d'en sortir. Pas d'amodier le projet. Ils pensent qu'il n'est pas amodiable.
Enfin, s'ils étaient au pouvoir, ils le sont dans certains pays, certes. Mais ils n'ont pas la majorité relative au Parlement européen. Mais en Italie, on a quand même la Ligue qui réalise pour ces élections européennes le meilleur score. Le Fidesz, il est au pouvoir avec Viktor Orban en Hongrie. C'est-à-dire, il démontre bien aussi qu'ils peuvent exercer le pouvoir et continuer à avoir une assise populaire assez importante, Jean-Yves Camus.
Ben oui, parce que Matteo Salvini donne à ses électeurs ce qu'ils espèrent encore davantage chez la sortie de l'Italie de l'Union européenne, qui est le droit de veto sur le fait qu'un bateau accoste chargé de migrants sur les côtes italiennes. Et c'est ce qui fait la différence entre Matteo Salvini et un certain nombre de ses partenaires. Quand Marine Le Pen dit « si j'étais au pouvoir, je ferais », Matteo Salvini dit « moi je suis ministre de l'Intérieur » et « telle ONG, je ne veux plus qu'elle débarque des migrants sur mes côtes ».
Voilà. Et Salvini, d'ailleurs, qui souhaite qu'il y ait une répartition des migrants quand ils arrivent sur les côtes, ce qui n'est pas du tout le cas de Viktor Orban, par exemple, en Hongrie. Ça fait partie des dissensions. C'est-à-dire, autant il peut y avoir aussi comme point commun ce rejet de l'immigration, mais sur la façon de traiter les migrants une fois qu'ils sont sur le sol de l'Union européenne, là aussi, il peut y avoir des divisions qui se manifestent, Bertrand Badie.
Alors, des divisions, ne serait-ce que parce que leur positionnement n'est pas du tout le même. On ne peut pas comparer la situation de l'Italie face à l'immigration à celle de la Hongrie. Mais effectivement, vous avez raison de mettre le doigt sur quelque chose de très important. Ces partis, lorsqu'ils accèdent au pouvoir, non seulement ils ne demandent pas à sortir de l'Europe, mais ils obéissent. Ils sont obéissants à l'égard de l'Europe. Regardez en matière budgétaire les concessions énormes que l'Italie a dû faire, que le gouvernement italien a dû faire. Si à ce moment-là, M. Salvini avait été dans l'opposition, que n'aurait-il hurlé ? Donc il y a là quelque chose qui rejoint ce qui, moi, me semble fondamental, c'est-à-dire les cultures de protestation. Nous sommes dans un moment, particulièrement en Europe, mais pas seulement en Europe, où la culture de protestation l'emporte sur la culture de gouvernement. D'où ces scores champignons, c'est-à-dire ces gonflements absolument extraordinaires de scores de certains partis qui sont les porteurs de cette protestation, et comme des champignons, leur possibilité de se défaire et de se décomposer à une vitesse très vite. La France insoumise, de ce point de vue-là, en a fait l'expérience.
Mais pardonnez-moi, Bertrand Badie, est-ce que cette culture de la protestation, s'agissant des européennes, ça n'est pas le modèle dominant aujourd'hui, y compris pour ceux qui défendent l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui? C'est-à-dire, dans tous les programmes, il y avait quand même la volonté de réformer l'Europe, d'organiser, par exemple, La République en marche, et un des projets de renaissance, d'organiser une grande conférence. Alors, je ne sais plus si c'est une conférence de refondation, je ne sais plus comment c'est appelé. Mais enfin, finalement, il y a une forme de banalisation de la critique de l'Europe.
Et cette protestation, elle est un peu partout. Là, je crois que cette protestation, cette culture de la protestation n'est pas née de rien du tout. Elle est née de la disparition des alternatives, c'est-à-dire, rappelez-vous, quand il y avait un programme de droite et un programme de gauche qui se faisaient face, où il y avait des partis, y compris des partis ouvriers, qui structuraient et organisaient la mobilisation populaire, où il y avait des idéologies qui ensemençaient des systèmes de valeurs différents et identifiables à l'intérieur des différentes fractions de la société, et où il y avait de vrais programmes de gouvernement. Dieu sait d'ailleurs si on a utilisé et critiqué en même temps ce terme de programme de gouvernement. Tout ceci a disparu, c'est-à-dire il y a d'un côté la gestion sans débat, et de l'autre, la protestation sans gestion. La gestion sans débat, c'est cette culture qui domine, mais pas seulement en France, on la sent ici en France, mais un peu partout dans le monde occidental, qui consiste à dire, la science économique est une science exacte, qui dit ce qu'il faut faire, et donc, comme on ne débat pas, on ne discute pas l'ordonnance de son médecin, on ne discute pas des ordonnances économiques. Et donc, exit le politique. Il n'y a plus de débat politique, il n'y a plus de politique. Quand il il n'y a plus un débat sur quelle cité peut-on choisir, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ceux qui débattaient sur le type de cité se replient dans la protestation. Et quelle meilleure façon, dans un contexte de mondialisation, d'articuler de la protestation que de le faire à travers la défiance de l'autre, de l'altérité, de la mondialisation, dans l'érection des migrants en bouc émissaire? Bref, on retrouve là toutes les composantes qui font un succès, mais quand même très artificiel, de ces formations.
J'arrive, Camus.
On a effectivement de l'eau à mettre au moulin quand on est un peu critique à l'égard de la façon dont marche notre système politique, de ceux qui pensent qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Effectivement, l'omniprésence de l'économie, le fait que à droite comme à gauche, on ait fini par considérer que l'économie était une science prédictive et que on avait en fait comme seule vérité que celle des techniciens, des technocrates, à un moment donné, ça a pris tellement le pas sur le choix de société, sur le choix de valeur, qu'il est normal que même des citoyens qui n'ont pas l'intention de voter aux extrêmes se rebellent et disent « la finalité de la vie, elle ne peut pas être dressée en équation, fût-ce par des gens extrêmement brillants sortis des meilleures écoles ». Après, la question, c'est effectivement de savoir qui est prêt aujourd'hui à revenir à un débat politique qui se structure autour de programmes de gouvernement tels qu'on a pu avoir, pas totalement d'oschkadonique pour en parler tout de même, le programme commun de 1978, voilà, qui à un moment donné a structuré une opposition en France très forte entre le programme d'une gauche unie et le programme de la droite.
Est-ce que pour vous, Jean-Yves Camus, les partis nationalistes, alors ceux qui notamment seront représentés au Parlement européen, sont totalement exclus de cette perspective de gouverner, si ce n'est de gouverner de manière pérenne, mais peut-être de gouverner au gré d'alliances de circonstances? C'est-à-dire, on sait bien que c'est aussi la façon dont fonctionne le Parlement européen, c'est-à-dire il y a des alliances qui peuvent varier en fonction des sujets. Est-ce que certains groupes nationalistes ne pourraient pas, par moment, pourquoi pas, se dire on va voter, on va porter une idée, un projet avec, par exemple, le Parti Populaire Européen, où siège encore, même s'il est suspendu, le Fidesz de Viktor Orban?
Ah oui, ça c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, ça se passe de cette manière dans plusieurs gouvernements de coalition nationaux. Mais il ne faut jamais perdre quelque chose de vue. C'est que lorsqu'un parti national populiste s'allie à une force de droite, il le fait généralement après que cette force de droite ait fait des concessions. Et ces concessions, même si elles ne sont pas programmatiques, elles sont au minimum intellectuelles. Je rappelle quand même une chose. Lorsqu'en 1997, je crois, 5 régions de France ont vu une partie de la droite, contre les appareils nationaux de ce qu'était à l'époque le RPR, passer des alliances avec le Front National pour gouverner des régions, c'était sur un programme. Et à l'époque, quelqu'un qui s'appelait Jean-Marie Le Pen disait, mais moi j'ai rien contre le fait de passer des alliances avec la droite, à condition que ce soit la droite qui vienne sur notre programme. C'est-à-dire, nous faisons zéro concession, nous amenons les autres sur notre terrain, s'ils consentent à venir sur notre terrain, notamment sur les questions liées à l'immigration, la citoyenneté, l'identité, la politique de la culture aussi, qui était quelque chose de très important dans ces tractations entre les deux formations. Alors là, effectivement, par pur pragmatisme, nous acceptons cette alliance, mais elle a toujours un objectif. C'est de tuer l'adversaire.
Bertrand Badie.
Oui, je me rappelle qu'autour de cette table, celle-ci même, et je me demande d'ailleurs si ce n'était pas chez vous, Hervé Gardette, j'ai eu, il y a quelques années, un débat avec Zdenek Todorov, le regretté Todorov.
Et je crois bien que c'était dans du
voilà. Alors peut-être vous souvenez-vous que vous aviez posé la question qui était proche de celle-ci. Est-ce qu'il peut y avoir un futur, un avenir pour ces formations nationalistes? Et Todorov a fait une réponse extrêmement brève que je trouvais admirable parce qu'elle résumait tout. Elle disait « ils n'ont rien à vendre ». Et l'émission s'était arrêtée sur cette phrase qui m'a beaucoup marqué. « Ils n'ont rien à vendre », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord que quand on est dans une logique de protestation et non de gestion, par définition, ce que l'on a dans son panier est davantage destiné à lancer des œufs que à faire des omelettes, n'est-ce pas ? Mais ça veut dire quelque chose de beaucoup plus profond. C'est que la matrice de notre monde aujourd'hui, que ça plaise ou que ça plaise pas, Il n'y a pas eu de décision. Ce n'est pas le résultat d'une décision ni d'un choix politique. La matrice de notre monde aujourd'hui, c'est la globalisation. Et dans cette globalisation, il faut nécessairement tenir compte de l'autre. J'en parlais hier avec monsieur de la Palice qui m'a donné raison. Et de ce point de vue-là, la matrice néo-nationaliste ne peut rien apporter. Et cela fait que le néo-nationaliste qui arrive au pouvoir, soit ne fait rien et donne dans le symbole, parce que c'est plus facile effectivement d'interdire à des bateaux d'accoster que de résister à la pression de la Commission européenne en matière budgétaire. Mais ça veut dire quelque chose de plus, c'est que à terme, on paiera la facture du fait de s'écarter de la mondialisation, comme M. Trump devra la payer bientôt à travers le renchérissement des prix liés à sa politique de protectionnisme. Il y a un effet systémique et mécanique qui, effectivement, stérilise le projet gouvernemental néo-nationaliste.
Et il y a pourtant bien des projets qui visent à rassembler justement ces forces nationalistes. Alors vous allez me dire dans un instant si vous considérez que c'est quelque chose de relativement creux et peut-être qui est voué à l'échec et qui est peut-être déjà un échec, mais il y a un personnage dont on n'a pas encore parlé, vous évoquiez Donald Trump, c'est son ancien conseiller Steve Bannon qui avait pour projet de fédérer justement les nationalismes européens, de planter un pieu dans le cœur du vampire. Il était venu notamment à Lille, c'était en mars 2018 pour le congrès du Rassemblement National à Lille.
Ce fut sans conteste le moment fort de cette première journée du congrès de refondation du Front National ici à Lille. Le discours de Steve Bannon, ancien bras droit de Donald Trump pendant la campagne à la Maison Blanche. Il a été très applaudi, il a même eu le droit à une standing ovation lors de son arrivée ici dans la salle. Il a commencé son discours en reprenant une phrase de Marine Le Pen qui l'a particulièrement marqué. On ne peut plus regarder la politique moderne via le spectre classique.
Let them call you racist.
Laissez-les vous appeler racistes. Laissez-les vous appeler xénophobes. Laissez-les vous appeler nativistes. Portez cela comme un badge d'honneur. Parce que chaque jour, nous devenons plus forts et eux s'affaiblissent.
Voilà, c'était en mars 2018 à Lille, le reportage signé France 24 et Euronews. Jean-Yves Camus, le projet de Steve Bannon. On en est où d'ailleurs? On en est où?
Nulle part.
Il en est où?
Nulle part. Il fait une tournée qui va même au-delà de l'Union européenne. Il était à Oslo devant un club d'officiers locaux il y a de cela 3 semaines. La Norvège n'est pas dans l'Union européenne. Mais honnêtement, Steve Bannon n'a rien à dire. Moi, ça fait 30 ans que je lis les auteurs conservateurs et les journaux conservateurs américains. Je rentre des États-Unis où j'ai rencontré des auteurs conservateurs absolument remarquables qui publient des livres malheureusement non traduits, mais plein de choses passionnantes. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt Rod Dreher, toujours ce que publie le American Conservative, ce que peut publier la National Review. Mais chez Bannon, on a un discours qui est très peu construit. Voilà quelqu'un qui, dans la même phrase, dans un discours, je crois, de 2014, était capable de vous dire « Je suis partisan d'un capitalisme agressif » et il enchaîne pour dire « Je suis un homme fidèle à la doctrine sociale de l'Église ». Il faut savoir si c'est le capitalisme agressif ou la doctrine sociale de l'Église. Donc, on est finalement face à un phénomène qui traduit plutôt notre fascination jusque dans les rangs du Rassemblement National pour tout ce qui vient des États-Unis d'Amérique. Le seul problème, c'est qu'à un moment donné, la figure de Bannon qui devait apporter quelque chose est un petit peu devenue le sparadrap du capitaine Haddock pour Marine Le Pen, et elle a fini d'ailleurs par s'en distancer parce qu'elle comprenait que ça ne lui apportait rien et que ça pouvait lui coûter.
Bertrand Badi, dans quelques années, vous vous souviendrez peut-être que c'est à vous que j'ai laissé le soin de conclure en 30 secondes cette discussion.
Oui, je crois que tout ça nous amène à un point possible de conclusion qui est en politique aujourd'hui l'importance de la politique de la rhétorique. C'est-à-dire produire un discours qui touche cet électeur que l'on essaye d'attraper en faisant de la peur une marchandise électorale. Donc quand vous semez la peur et que vous reflétez celle-ci dans une rhétorique du type de celle que l'on a entendue, ça marche. Et si ça marche électoralement, ça risque d'être durable un certain temps.
Eh bien, merci beaucoup Bertrand Badi et merci Jean-Yves Camus d'avoir participé à cette discussion qui nous a permis de revenir sur ces élections européennes et aussi de prendre un petit peu de champ avec ce scrutin. Émission que vous pouvez réécouter, télécharger sur notre site internet franceculture.fr, la page du grain à moudre. N'hésitez pas également à nous écrire et puis des extraits vidéo d'ici quelques heures que vous pourrez trouver également sur le site. Merci à l'équipe du Grain, Amélie Perrault, Léa Capuano, Camille Fouchard, Antoine Dulster et Cyril Marchand. Émission réalisée par Peyrelegras, avec à la prise de son Jean Frédérix.